VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, il est 11h en temps universel. Bonjour à tous. Le président nigérian Muhammadu Buhari a annoncé aujourd'hui qu'il va approuver une loi abaissant l'âge minimum pour être candidat à un mandat politique, ouvrant la voie à des candidats plus jeunes aux élections générales prévues en 2019. Le texte prévoit notamment l'abaissement de 40 à 35 ans de l'âge minimal requis pour être candidat à l'élection présidentielle et de 35 à 30 ans pour briguer un mandat sénatorial ou de gouvernement. Les membres de l'Assemblée nationale, eux, et des assemblées des États devront avoir au minimum 25 ans. Et cela fait 3 ans que le président Buhari dirige le Nigeria, le pays le plus peuplé d'Afrique, après avoir battu aux urnes son prédécesseur Goodluck Jonathan. L'ancien général âgé de 75 ans avait bénéficié de la confiance des Nigérians pour sa détermination à lutter contre la corruption, mais surtout à mettre fin à la sanglante insurrection du groupe terroriste Boko Haram. Notre correspondant à Abuja, Gilbert Tamba, revient sur les 3 années de l'administration Buhari.
Il y a 3 ans, le Nigeria vivait la première alternance démocratique de son histoire. Le général Muhammadu Buhari gagnait la présidentielle, une victoire que son prédécesseur, Goodluck Jonathan, avait reconnue. 3 années plus tard, où en est le Nigeria et que pensent les Nigérians de l'administration de Buhari qui avait promis des performances? Judith Edward, activiste et assistante dans une ONG locale de développement.
Je ne dirais pas particulièrement que je suis satisfaite. Je sais que beaucoup reste à faire. Le genre de changement que nous voulons exige qu'on fournisse assez d'efforts parce que les dommages causés ne se sont pas produits en une seule année. Ça a pris plusieurs années pour que ces dommages se produisent. Donc, pour pouvoir réduire les débris de ces dommages, nous devons fournir plus d'efforts.
Les deux principaux thèmes de la campagne électorale de 2014 et 2015 du président nigérian étaient la lutte contre la corruption et la mise hors d'état de nuire des groupes terroristes Boko Haram dans le nord-est du Nigeria. Des succès divers ont été enregistrés, certes, lors des 3 dernières années, mais pour l'heure, beaucoup reste à faire. Réaction d'Hidayat Hassan, directrice du Centre pour la démocratie et le développement.
On the fight against corruption, obviously, there have been some...
Sur la lutte contre la corruption, il y a eu vraiment quelques impacts, particulièrement des fonds détournés qui ont été recouvrés. Mais aussi cette lutte contre la corruption est vivement critiquée par beaucoup de personnes, surtout avec la perception que la lutte est sélective.
En l'absence d'une réforme profonde du système judiciaire, la Commission nigériane contre les délits économiques et financiers, IFCC, a bien traqué quelques pilleurs des précédents régimes. Mais elle s'est le plus souvent bornée à faire rembourser une partie des sommes détournées. Très peu de peines de prison ont été prononcées et encore moins ont été appliquées. La jeunesse de ce grand pays de l'Afrique de l'Ouest manque de boulot. Une jeunesse qui veut désormais prendre les rênes du pouvoir. Hamza Laval est activiste et un des combattants pour l'inclusion des jeunes dans la gestion des affaires de l'État nigérian.
Je pense que son échec est de ne pas impliquer beaucoup de jeunes dans son cabinet. Aujourd'hui, si vous regardez des gens autour du président Muhammadu Buhari, que ce soit dans l'exécutif et ceux qu'il a nommés au sein du conseil d'administration et d'autres chefs des agences de l'État, vous n'avez pas de jeunes. Vous trouvez des vieux et bien sûr, vous savez que les vieux rêvent seulement. Et si vous rêvez, vous devez dormir pour pouvoir rêver. Donc ça dort, ça rêve à la fois, mais les jeunes, eux, ont une vision.
Concernant la lutte contre Boko Haram, le bilan de Muhammadu Buhari est a priori plus positif. Le groupe ne contrôle plus de territoire. Cependant, force est de constater que les attentats n'ont pas cessé, ni les kidnappings, comme celui d'une centaine de lycéennes en février dernier à Dapchi, dans l'État de Yobe. 4 ans après celui de Chibok, lors duquel 276 filles avaient été faites prisonnières. Témoignage.
Je peux dire qu'il travaille bien parce que notre travail, c'est de prier pour lui et pour la nation pour qu'il puisse continuer à faire plus et que Dieu le garde en vie. En ce qui concerne cette administration, ils ont pu affronter la question de l'insécurité, même s'ils ont encore beaucoup de travail à faire, contrairement à l'administration précédente.
Malgré ces bilans, plutôt en demi-teinte, auquel on pourrait ajouter la crise entre éleveurs et agriculteurs, Muhammadu Buhari va se présenter à la présidentielle de 2019. Selon un sondage du Centre pour la démocratie et le développement, 40% de la population apprécie le travail de Buhari et 60% des Nigériens ne sont pas satisfaits du régime du président nigérian. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a annoncé lundi officiellement sa candidature à un second mandat lors de l'élection du 29 juillet où il affrontera au moins une quinzaine d'adversaires. Depuis plus de deux mois, des coalitions de dizaines d'associations et de partis de la majorité ont proclamé leur soutien à la candidature de M. Keïta, mais lui-même ne l'avait pas encore officiellement annoncé. C'est désormais chose faite. Kassim Traoré.
C'est sa résidence de Sébenikourou qu'il a choisie pour déclarer sa candidature à la prochaine présidentielle. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali.
Je ressens simplement et seulement le profond désir de poursuivre mon devoir, qui est de servir au mieux le Mali, en ces heures où les incertitudes ne sont pas encore totalement levées. Mes chers compatriotes, voilà la raison pour laquelle je me porte candidat à la présidentielle du 29 juillet 2018.
En officialisant sa candidature, Ibeka sait qu'il sera soutenu par 68 formations politiques, même si l'ADEMA, deuxième partie de cette coalition, est divisée.
Lorsque je serai élu, si Allah subhanahu wa ta'ala et vous le vouliez et le favorisiez, je me donnerai comme priorité de consolider les acquis, d'améliorer la prise en charge des urgences et de restituer entièrement à notre pays sa grandeur de nation debout. En tête des priorités, je placerai la sécurisation de notre territoire national.
Ibeka trouve que son bilan est positif. C'est pour cela qu'il n'hésite pas à briguer un second mandat.
Pour ma part, je fais confiance au peuple malien pour trancher sur la pertinence de ce qui lui sera proposé lors de la future campagne électorale. Chers compatriotes, le mandat arrive à son terme. La mission a été accomplie. Nous venons en confiance, encore une fois, solliciter qu'il vous plaise de la reconduire.
Cette année, les jeux sont ouverts par rapport à la présidentielle. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
10 personnes ont été retrouvées décapitées dimanche dans l'extrême nord du Mozambique, victimes d'une attaque attribuée à un groupe islamiste à l'origine de multiples violences dans la région. L'attaque s'est déroulée aux premières heures du jour dimanche dans le petit village de Mondjane, dans la province du Cabo Delgado. La direction de la police mozambicaine a annoncé la tenue d'une conférence de presse dans l'après-midi dans la capitale Maputo. Les présidents français et angolais ont tous deux réaffirmé leur soutien aux accords qui prévoient la tenue d'élections en République démocratique du Congo le 23 décembre. Emmanuel Macron et João Lourenço excluent la participation de l'actuel président Joseph Kabila. Éric Manirakiza.
Le président français a déclaré que Paris appuiera les initiatives des pays de la région et de l'Union africaine pour faire appliquer les accords de la Saint-Sylvestre 2017. Nous partageons les mêmes préoccupations et les mêmes volontés, a souligné Emmanuel Macron. Il a souhaité que les réunions des prochaines semaines permettent d'aboutir à un résultat clair. De son côté, le président angolais a indiqué que les dernières discussions avec le président rwandais Paul Kagame ne sont pas un secret et a rappelé que le président Kabila doit respecter les accords. D'après João Lourenço, ces accords ont reçu la bénédiction de l'Église, donc tout ce qui est béni doit être respecté. Il a cependant affirmé ne pas vouloir s'ingérer dans les affaires internes de la RDC, précisant qu'il s'agit d'un conseil et pas une obligation. Hier, Kinshasa a publiquement demandé des explications au président français. Le porte-parole du gouvernement Lambert Mende a dénoncé les propos subliminaux et pleins d'ambiguïté tenus le 23 mai par Emmanuel Macron au cours de sa rencontre avec le président rwandais Paul Kagame.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
Le président français Emmanuel Macron a réuni aujourd'hui les quatre principaux acteurs du conflit libyen pour tenter de trouver une sortie de crise dans ce pays toujours plongé dans le chaos. Cette année, après la chute de Muammar Kadhafi, la présidente française très impliquée dans la recherche d'une solution à la crise depuis l'élection d'Emmanuel Macron en mai 2017, espère la signature d'un accord politique par les quatre participants en vue d'élections présidentielles et parlementaires d'ici la fin de l'année. Deux soldats égyptiens et 8 djihadistes ont été tués dans le cadre d'opérations militaires menées principalement dans la péninsule du Sinaï, dans l'est de l'Égypte. Ces dernières semaines, les forces armées égyptiennes mènent depuis le 9 février une vaste opération anti-djihadiste baptisée Sinaï 2018, alors que la péninsule est le théâtre d'une insurrection du groupe État islamique. Et puis le premier procès instruit par l'instance chargée de rendre justice aux victimes de la dictature en Tunisie s'est ouvert aujourd'hui à Gabès, dans le sud du pays, en présence présence de proches et militants réclamant la fin de l'impunité 7 ans et demi après la révolution. 14 responsables, dont l'ancien président Zinedine El Abidine Ben Ali et son ministre de l'Intérieur Abdallah Khalel, sont poursuivis pour la disparition forcée et la mort de Kamel Makhmati, un islamiste membre du mouvement Ennahda, arrêté le 7 octobre 1991 à Gabès. Aucun accusé n'était toutefois présent dans cette première audience qui s'est tenue dans une salle comble, selon l'AFP. Déjà condamné par contumace et à plusieurs années de prison et de pour torture, Ben Ali vit en exil en Arabie Saoudite. Point final à ce journal, le prochain dans 50 minutes.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.